Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Nassim Marachi, autrice de L'automne et la dernière saison, un texte traduit du persan par Christophe Balaï aux éditions Zulma, et Tomasz Jędrowski, auteur des Nageurs de la nuit, traduit de l'anglais par Laurent Bury aux éditions La Croisée. Merci infiniment à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui à la BPI et grand merci Julie Duvigneault pour l'interprétation. Dans vos deux livres, deux premiers romans, il est question d'amour, de quête de liberté, de rêve, de départ, de choix. En Iran aujourd'hui, dans l'automne et la dernière saison, et en Pologne dans les années 80, dans Les Nageurs de la nuit, j'aimerais qu'on entre dans vos romans par vos personnages, puisque ce sont deux romans dans lesquels on est au plus près des émotions, des pensées de vos personnages. Nassim, Leïla, Chabaneh et Roja, ce sont trois amies. Elles ont 28 ans, elles se sont rencontrées à l'université en première année de génie mécanique. Le roman débute en été. Misag, le mari de Leïla, a quitté l'Iran pour le Canada 8 mois plus tôt. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous donner quelques mots pour décrire chacune d'entre elles? On entrera bien évidemment davantage dans le détail tout au long de la discussion, mais quelques mots pour décrire chacune d'entre elles et nous raconter peut-être comment elles sont arrivées. Est-ce que vous aviez en tête dès le départ ces trois femmes, ou est-ce qu'il y en avait une, Leïla peut-être, qui était là un petit peu avant les autres?
بعد از تظاهرات سال 2009
après les manifestations de 2009
من اون موقع روزنامه‌نگار بودم.
J'étais journaliste. Ah pardon, comme ça c'est mieux. Oui, après les manifestations de 2009, moi j'étais journaliste.
دلم می‌خواست موقع یه گزارش بلند بنویسم درباره اتفاقاتی که برای نسلی که من عضوش بودم اتفاق افتاده بود.
Je voulais écrire une sorte de rapport sur ce qui s'était passé pour la génération, ma génération.
دلم می‌خواست یه گزارش خیلی خیلی بلند بنویسم و اینا رو مستند بکنم.
J'ai commencé à écrire un grand rapport et j'ai voulu faire un reportage. Car je pensais que ces jours difficiles se termineraient et que des jours meilleurs arriveraient. Et qu'il était important que tout le monde sache que nous avions combattu pour la liberté.
خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هیچ روزای روشنی نیامد و هر روز اتفاقهای بدتری افتاد تو کشور.
Malheureusement, ces jours meilleurs ne sont pas arrivés, les jours plus lumineux ne sont pas encore arrivés et il y a encore des événements tragiques qui se passent en Iran.
و همچنان اون کتاب به عنوان یه کتابی که الان در واقع آدم‌ها درکش می‌کنن وجود داره.
Et ce livre est quelque chose que est un témoignage de ce que peuvent comprendre encore à l'heure actuelle les gens.
ولی همون موقع که می‌خواستم گزارش بنویسم فکر کردم که اگر یه رمان بنویسم یعنی کم کم این گزارش به شکل داستان و رمان در اومد و من طرح رمان رو نوشتم.
Mais au fur et à mesure que j'écrivais ce rapport, petit à petit, ça a pris la forme d'un roman et voilà, j'ai créé ce roman. J'ai pensé que la forme du roman était peut-être plus appropriée au récit de ce qui s'était passé pendant ces jours.
اول فکر می‌کردم که یک کاراکتر باید داشته باشم و این اتفاقات توی دوره‌های زندگی مختلفش براش بیفته. ولی اول فکر می‌کردم که بعد یه کاراکتر باشه و این اتفاقات توی دوره‌های زندگی مختلف اون کاراکتر رخ بده.
Au départ, j'ai pensé avoir seulement un personnage et que plusieurs événements pourraient arriver dans la vie de ce personnage.
ولی بعد فکر کردم که اگر 3 تا کاراکتر داشته باشم احتمالاً نماینده بهتری از یک نسل خواهند بود.
Mais après, j'ai pensé qu'avec 3 personnages, ça pourrait être plus représentatif d'une génération.
بخاطر اینکه هر کدوم میتونن ماجراهای خودشون رو داشته باشن و قصه های خودشون رو روایت کنن.
Et que chacune de ces femmes pourrait expliquer leur propre récit et le récit de leur propre histoire.
در واقع تأثیری که جامعه بر روی چند تا کاراکتر روی یک نسل میذاره رو روایت کردم.
Et aussi l'influence et l'impact que pouvait avoir la société sur la vie de ces femmes.
Et effectivement, on s'attache beaucoup à ces trois femmes qui disent je successivement. On a donc d'abord Leïla, puis Chabanet, puis Roja qui raconte une journée en été, puis on est en automne et elles racontent à nouveau chacune leur tour une journée. Ce dispositif narratif, il est arrivé rapidement, cette idée de se dire que vous alliez rester concentré sur deux moments et dire je à chaque fois.
بله این این فرم رو از اول داشتم
میست فرم ایتلا دیم دیبی
دلم میخواست که در انگار که یه برشی انگار یه عکس از اینها داریم انگار یه دوازه کوتاه رو باید میکنیم
je voulais qu'il y ait comme une espèce de photographie de ces deux moments là à deux moments différents
دلم میخواست که آدم ها رو به سرعت نگاه کنیم ولی عمیق نگاهشون کنیم
je voulais qu'on les regarde très rapidement mais qu'en même temps que ce regard soit très profond
به خاطر همینه که وارد گذشتهشون میشیم و حتی از طریق رویاهاشون وارد آیندهشون میشیم.
C'est pour ça qu'on rentre vraiment dans leur passé et aussi dans leurs rêves.
و انتخاب کردن دو تا زمان هم یعنی هم توی تابستون هم توی پاییز برای اینه که می‌خواستم تأثیری که جامعه به سرعت بر اینها گذاشته روایت بشه.
Et si j'ai choisi ces deux saisons, c'est vraiment pour montrer aussi l'influence qu'avait eu la société sur ces deux moments-là.
Et on va parler évidemment de ce qui se passe dans la société, de l'évocation de ces souvenirs, de ces rêves, de la façon dont vous les faites advenir, qui est extrêmement intéressante. Dans votre roman, Tomasz, c'est le narrateur qui a décidé de quitter son pays, la Pologne, pour partir en Amérique. Tomasz, est-ce que vous pouvez peut-être rapidement nous rappeler le contexte, pourquoi Varsovie dans les années 80, qu'est-ce que c'est qu'habitait Varsovie dans ces années-là, et un petit peu comme Anassim, votre narrateur Ludwig qui a 22 ans au moment du récit, comment est-ce que vous le décririez?
Alors déjà pour la Varsovie dans les années 80, en l'occurrence c'est le début des années 80. Moi j'étais intéressé par cette époque parce que pour moi c'était le début de la fin du système communiste, sauf que les gens à l'époque ils ne le savaient pas. La plupart des gens pensaient que ce système allait durer pour toujours, pour l'éternité. Et c'était une époque où les gens, comme en Iran, dans le roman de Nassim, commençaient à désespérer et à se dire qu'il n'y avait pas un grand avenir qui les attendait là. Donc c'est un moment où beaucoup de gens sont partis, y inclus mes parents, en Allemagne de l'Ouest, dans mon cas, pas aux États-Unis. Et bien sûr, après, en 81, il y a eu la loi martiale qui a donc congelé le pays, en quelque sorte, et on ne pouvait plus sortir. Donc, bon, c'est un peu un spoiler du livre, mais ce n'est pas vraiment...
Non, pas l'essentiel.
Mais dans le cas de Ludwig, il arrive à partir avant que les frontières se ferment. Et... La deuxième question, c'était
comment est-ce que vous le décririez, ce personnage?
C'est un jeune homme très sensible, avec une vie intérieure très riche, qui ne se traduit pas toujours forcément dans ses actions, peut-être. Donc, c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans son monde. Et c'est un jeune homme qui est en train de se découvrir. Et de faire face à son passé et de faire face à la honte profonde qu'il ressent en raison de sa sexualité.
Oui. Puisqu'il tombe amoureux de Janusz, qui veut rentrer dans le rang du parti. Il travaille lui au service du contrôle de la presse. Quand Ludwig, lui, il s'insurge contre la politique de son pays. Votre narrateur, il dit « tu ». À cet amoureux. Il explique qu'il lui écrit ces lignes, ce texte, même s'il ne lui donnera sans doute jamais, mais parce qu'il a besoin de lui dire. Et c'est le cas aussi de Leïla, qui dans le roman de Nassim dit tu à son mari qui est parti. Pourquoi ce tu? Parce qu'on a besoin de ce tu, justement, pour, et sans faire de mauvais jeu de mots, mais pour dire les choses qui ont été tues, que c'est le rapport le plus direct d'un personnage à l'autre, de lui dire directement tu.
C'est une confession et c'est un récit privilégié et intime dans le sens que, en tant que lecteur, on a l'impression d'écouter une conversation entre deux personnes qu'on ne connaît pas et qu'on a peut-être envie de connaître. Et c'était pas vraiment un choix conscient, mais j'ai essayé plusieurs versions et après je suis tombé sur un roman. C'est un roman anglais qui employait ce « tu ». C'était une lettre aussi à quelqu'un. Et j'étais tellement touché par ça. Je n'avais jamais vraiment croisé cette forme-là. Et ça s'est décidé tout seul après là.
Nassim, Leïla dit « tu » à son mari qui est parti. C'est pour dire cette présence, c'est-à-dire qu'il n'est plus là, mais elle continue à s'adresser à lui.
Ma ben tu farsi migim rivayat dovom shakhs.
Nous, on a un terme pour ça en persan qui s'appelle la narration à la deuxième personne.
Chize rayeji hast, yani na kheli ziyad, vali yek az
rivayat. C'est quelque chose qui est assez courant, pas très très fréquent, mais qui quand même est assez répandu. Mais Leïla, c'est un petit peu différent. Elle parle à son mari. Mais dans la deuxième partie, si vous avez bien regardé, cette adresse à son mari devient de moins en moins fréquente, comme s'il y avait une distance qui se créait dans l'amour. Et elle est en train d'accepter la séparation et donc cette adresse donne ce sentiment-là de la distance qui se crée petit à petit.
Je le disais, son mari Misag est parti, comme Ludwig est parti. Et Leïla, à un moment, s'adressant donc dans sa tête à Misag, dans la première partie, lui dit ceci, vous écrivez, « J'étais persuadée que tu ne partirais pas. Je m'attendais à ce que tu entres dans la chambre, que tu m'embrasses et que tu dises, « J'ai changé d'avis, je n'irai nulle part si tu n'es pas d'accord. J'espérais que tu dirais, « Non, je ne vais pas te laisser toute seule. Où irais-je sans toi ?» J'étais convaincue que tu ne partirais pas. Plus loin encore, elle dit, pour toi, c'est quelque chose, la vraie vie. Mais ça n'avait rien à voir avec ma vie à moi. Je voulais devenir institutrice, libraire, pianiste, soliste ou journaliste. Et je ne laisserai jamais tomber aucun de ces rêves. Et Thomas, Janusz, quand Ludwig lui dit, mais est-ce que tu n'imagines pas que la vie est plus belle ailleurs, qu'on pourrait avoir plus de liberté, Janusz dit à Ludwig, et pour moi ça fait un petit peu écho à ce que je viens de lire, il lui dit, c'est toi qui veux t'enfuir, c'est toi qui essayes de m'obliger à ça, tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer comme tu le voudrais. C'est dur de s'aimer et de ne pas avoir les mêmes rêves.
Oui, c'est dur, mais je pense que c'est une réalité à laquelle on fait face par la plupart d'entre nous lors de notre premier amour, parce qu'on a beaucoup de... On a un idéal de l'amour, l'amour parfait, et souvent, ça peut tomber dans la codépendance ou dans la fusion totale de deux êtres. Et c'est ni très réaliste, ni très sain. Et je pense que là... Enfin, il faut aussi dire que j'avais envie d'écrire ce livre après que ma première relation s'est terminée. Et cette douleur... Enfin, On parle souvent du premier amour, mais on parle beaucoup moins de la première séparation. Et c'est aussi marquant. Et je pense que là, c'était vraiment pour moi une exploration des limites de l'amour qui ne sont pas vraiment décrites, je pense, dans notre culture. On ne parle pas des limites de l'amour. Et je pense que là, justement, quand il s'agit de devenir vraiment soi-même et de rester dans l'intégrité. Oui, c'est vraiment ça, les zones grises, les zones d'ombre qui ne sont pas vraiment définies clairement. Donc oui, je pense que c'est douloureux, mais c'est douloureux parce que c'est la réalité, parce qu'on ne voyait pas les choses clairement.
Vous dites de devenir soi-même et je repense au mot de Ludwig quand il explique qu'il a laissé sa grand-mère dans son village. Il dit l'égoïsme, devenir soi-même, ce n'est rien d'autre. C'est penser à ses rêves, à ce qui nous convient, ce qu'on veut pour notre vie. Nassim, pour Missag, la liberté, mais comme pour Roja, qui veut faire son doctorat en France, à Toulouse, qui attend un visa pour pouvoir partir. Leur vie est ailleurs, ou en tout cas, ils ne veulent pas penser que leur vie aurait pu être ailleurs, même s'il n'y a pas de certitude. D'ailleurs, Roja interroge Missag et elle lui demande si ça en valait la peine. Et il n'est pas capable de lui donner de réponse définitive quand elle aimerait qu'il lui dise « Mais bien sûr, ça vaut la peine de partir. Et bien sûr, on est plus libre quand on part. »
Elle n'a pas compris votre question.
C'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas de question dans ce que je disais. Bien vu. Non, mais c'est pour dire qu'ils partagent ce rêve-là, Roja et Missag, de se dire que la liberté, elle sera ailleurs et qu'ils ne pourront pas devenir eux-mêmes, pour reprendre les mots de Tomáš, dans leur pays à ce moment-là.
قبل از اینکه درباره چیزی که گفتن صحبت کنم می‌خواستم بگم که چقدر هیجان زده هستم الان از صحبت کردم با توماش.
Avant toute chose, je voudrais dire que je suis vraiment très heureuse de parler avec Tomáš.
من احساس می‌کنم که این جادوی ادبیات
Je sens que ça c'est la magie de la littérature.
من یه جای دیگه دنیا نشستم که خیلی دور از جایی که Tomáš بوده و احتمالاً تجربه‌های خیلی متفاوتی از هم داشتیم.
Moi j'étais assise quelque part très loin d'ici et j'étais en train d'écrire quelque chose qui était forcément baigné dans une expérience qui était très différente de celle de Tomáš.
و این جادوی آدم‌هاست و این جادوی ادبیاته که با وجود این همه فاصله میتونه آدم‌ها رو به هم دیگه نزدیک بکنه.
Mais ça c'est la magie des hommes et c'est la magie de la littérature qui permet de se retrouver si proches l'un de l'autre.
احساسات آدم‌ها و مدلی که با احساساتشون رفتار می‌کنن توی تمام جوامع میتونه مشترک باشه.
Les sentiments et les comportements des hommes peuvent être les mêmes dans toutes les sociétés du monde.
چیزی که جامعه لهستان اثر گذارنده برای مبارزه با دیکتاتوری شنیدنش برای من خیلی امیدوارکننده است.
Tout ce que Tomáš a dit à propos de la dictature qui était dans son pays me donne beaucoup d'espoir.
و اگر ما نمیخونیم و اگر ادبیات وجود نداشت و قصه های روایت نمیشدن شاید واقعا این امیدها هم وجود نداشت.
Et que si la littérature n'existait pas, peut-être que vraiment nous n'aurions pas cet espoir qui pouvait exister.
سوالش میگم. سوالی؟ سوالی
Il y avait pas de questions précises
Oui, moi j'ai une question pour toi. Oui, déjà parce que je sais que ce roman-là, c'était ton premier roman et Les nageurs de la nuit, c'est mon premier roman aussi. Et l'autre parallèle, c'est que moi, j'ai fini d'écrire ce roman il y a bientôt 4-5 ans. Et le tien est sorti en 2012, je crois. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle est ta relation à ce roman maintenant, émotionnellement et peut-être au personnage aussi, s'il a évolué et aussi ta relation au sujet de l'immigration et au sujet dont tu parles dans ce roman.
توی تمام کارهای من این وجود داره.
Dans tous mes travaux ça existe.
مهاجرت و تبعید موضوع
اصلی l'immigration.
رمان‌های بعدی منم هست.
C'est aussi le sujet principal de mon prochain du roman que j'ai écrit après.
رمان دومم درباره یک خانواده‌ای که به خاطر جنگ ایران و عراق از شهری که خراب شده مهاجرت می‌کنن.
Ce deuxième roman parle d'une famille qui est en train de partir en exil à cause de la guerre Iran-Irak.
Roman sevomam ki photographic novel hast darbare shab akhar yek pesar irani ki dare az Iran mire va ma kol un shab akase kardim.
Mon troisième roman, qui est en fait un roman photographique, raconte la soirée d'un jeune homme qui va partir en Iran et ils ont photographié toute cette soirée. Mais il n'y a pas eu la possibilité, il n'y a pas eu l'autorisation de publier en Iran.
Roman بعدیم که نمیدونم بعدش بگم سوم یا چهارم چون قبلی چاپ نشده درباره یه خانواده پناهجو توی پاریس.
Et le troisième ou le quatrième, maintenant je ne sais plus puisque l'autre a été censuré, parle d'une famille de réfugiés à Paris. Donc maintenant quand je regarde ce que j'ai écrit, en fait je me rends compte que l'exil est vraiment le sujet principal de ma création.
ولی اگر بخوام بگم که به این کتاب چجوری نگاه میکنم راستش یکم عجیبه ولی من خیلی با وسواس مینویسم و خیلی برام سخته که کجا ادیت رو باید تموم کنم.
Quand je regarde ce roman-là, moi, pour moi, je suis un peu maniaque et du coup, quand je regarde les choses, je ne sais pas à quel endroit il faut que je m'arrête de faire des corrections. Et c'est pour ça, à chaque fois que j'ai essayé de le relire, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas écrit un peu mieux? Et c'est pour ça que je ne le relis pas.
برای همین کلان سعی میکنم که هر جایی که بهم میگم بیا و یه تیکت کتاب بخون بگم به یک بهانه بگم نه من این کار رو نمی کنم.
Et donc à chaque fois qu'on m'interroge sur la relation que j'ai, j'essaye de faire de prétexter que non non je n'ai rien à dire là-dessus.
Parce qu'en fait c'est intéressant que ton troisième roman a été censuré. Puisque dans les nageurs de la nuit, je parle aussi de la censure et justement un des deux protagonistes travaille pour la censure même. Ça c'est quelque chose. Enfin, après avoir lu ton roman, je réfléchissais pas mal à l'Iran parce que comme dans mon livre, il s'agit beaucoup, d'un amour entre deux hommes, donc de la homosexualité. Je me demandais si tu quelle était la situation, comment toi tu la voyais évoluer dans ton pays, ou si c'était quelque chose qui est sur ton radar.
خب نوشتن ازش امکان پذیر نیست چون سانسور میشه.
On peut pas vraiment parler de l'homosexualité en Iran parce que ça va être censuré directement.
ولی توی ایران نویسنده‌ها معمولاً می‌دونن که باید چی کار بکنن که کارشون سانسور نشه.
Mais en Iran normalement les gens savent de quelle manière ils peuvent arriver à ne pas être censurés.
یه سری قانون نانوشته هست بین خواننده و نویسنده. شما می‌تونید از اون‌ها استفاده بکنید.
Il y a une série de lois qui ne sont pas écrites entre qui ne sont pas écrites entre le lecteur et l'écrivain qui font qu'on peut arriver à écrire certaines choses. Par exemple, vous ne pouvez pas parler de l'homosexualité dans un roman. Mais vous pouvez à un certain moment faire en sorte que le lecteur puisse comprendre que vous êtes en train d'en parler.
مثلا شما فرض کنید که دو تا شخصیت، یک شخصیت زن و یک شخصیت مرد مثلا توی یک خونه هستن و شما میگین که میگین نوشیدنی خوردن و با هم دیگه ارتباط برقرار کردن.
Par exemple, si vous mettez deux personnages féminins dans une pièce et vous ne pouvez pas parler de leur sexualité, mais vous pouvez dire qu'ils ont bu quelque chose et puis ensuite voilà, il s'est passé quelque chose.
خواننده میخونه که مست کردن و با هم سکس کردن.
Et le lecteur lit ça et il comprend qu'en fait ils ont fait l'amour.
Et ça va pas être censuré.
Non. البته با تمام این چیزایی که من تجربه زیادی دارم چون روزنامه‌نگار هم بودم ولی با تمام اینها خب یکی از کتابام سانسور شده.
Évidemment, moi je vous dis ça, j'ai beaucoup d'expérience. En plus, j'étais journaliste et donc je sais bien m'en tirer avec la censure, mais j'ai quand même été amie un roman qui a été censuré.
Et moi, deux autres livres également que j'ai chez moi qui sont environ 6 mois que معطله مجوزم و ممکنه که اونم اجازه چاپ نگیرن.
Et j'ai aussi deux livres qui sont en ce moment au ministère de la censure et c'est pas encore sûr, ça fait 6 mois qu'ils y sont et c'est pas encore sûr que j'aurai l'autorisation.
در واقع به چیزهای مختلف بستگی داره، یعنی غیر از اینکه بستگی داره به چیزی که شما نوشتین، بستگی داره به شما، یعنی شما کی هستید.
Aussi la censure elle ne s'exerce pas seulement sur ce que vous écrivez mais aussi sur qui vous êtes.
به اضافه اینکه این قوانین دائم عوض میشن چون نوشته نشدن، یه چیز نوشته شده مشخصی نیست.
Et en plus, les règles changent tout le temps parce qu'elles ne sont pas écrites. Donc, il y a toujours quelque chose qui est en train de changer. Et la personne qui travaille donc, dans le ministère de la censure, il est en train de travailler d'après sa propre idée de la censure.
مثلا رمان رمانی که ممنوع شد ایرادی که روش نوشتن اینه که کلاً رمان سیاه نمایی داره، یعنی چیزها رو سیاه نشون میده.
Par exemple moi mon roman a été censuré parce que on m'a fait le reproche qu'il était trop sombre, qu'il montrait les choses sous un jour trop sombre.
با این بهانه شما میتونید هر رمانی رو اجازه چاپ ندین طبیعتاً.
Sous prétexte vous pouvez interdire à peu près la publication de tous les romans.
چون به هر حال هر رمانی یه چیزایی سیاه نشون میده، یه سفید نشون میده ولی.
Puisque chaque roman montre des choses en noir, d'autres en blanc mais.
ولی ما سعی میکنیم که کنار بیاییم.
Mais nous on essaye de trouver une manière de contourner ça.
Ce que je trouve assez passionnant dans vos deux romans, c'est l'équilibre parfait que vous avez atteint dans ce que vous nous racontez de la société dans laquelle évoluent vos personnages, mais je le disais, on est toujours au plus près d'eux. C'est-à-dire que jamais vous ne nous donnez des informations pour nous donner des informations. On sent la société, on comprend les interdits, ce qui se joue dans la société, mais toujours par le prisme de vos personnages. C'était important pour vous de ne jamais perdre de vue que vous nous racontiez des vies et que par ces vies-là, vous alliez nous permettre de comprendre quelque chose d'encore plus fort sans doute que si vous nous décriviez ce qui était à l'œuvre, qu'en étant au plus près des personnages, vous alliez vraiment pouvoir nous permettre, ce que nous permet la littérature, de vivre une autre vie le temps de la lecture. C'est important.
Oui, c'est sûr. Pour moi, ce qui compte beaucoup plus, c'est la vérité émotionnelle du vécu et pas la vérité officielle. Et ça, ça ne veut pas dire que c'est la vérité objective, d'ailleurs. C'est peut-être ce qui se retrouve après dans les livres, mais ça ne veut pas dire que ça a été vécu comme ça. Et je pense que c'est aussi beaucoup plus réaliste de ne pas montrer tout, parce que la réalité, c'est aussi que les personnes même ne savent pas tout. Ça veut dire que si quelqu'un voulait écrire un roman sur ce qui se passe là, en ce moment, ce qui se passe dans la tête de chacun ici, il y aurait des petits bouts de connaissances sur le système politique, sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans la rue. Mais si quelqu'un écrit cette scène dans 20 ans ou dans 30 ans, en faisant trop de recherches sur ce qui s'est passé en mars 2023 et en mettre trop d'informations, bah, du coup, c'est pas comme ça qu'on vit et qu'on expérience le monde. Donc oui, c'est ça le choix de la fiction, c'est d'aller plus dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que les faits. Et plus délicat et plus subtil peut-être aussi, c'est comment quelque chose a été vécu très 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 subjectivement.
Nassim, sur cet équilibre à trouver.
Je pense que چیزی که در واقع برای من توی ادبیات مهمه همینه.
Pour moi ce qui est important dans la littérature c'est vraiment ça.
کتاب من وقتی توی ایتالیا چاپ شده بود توی یکی از برنامه‌های رونمایی که براش داشتم یه دختر خانمی از یه شهر خیلی دور اومده بود.
Quand mon livre a été publié en Italie, il y avait dans un des programmes de présentation, il y a une jeune fille qui était venue d'une ville très très éloignée. Et elle m'a offert en guise de souvenir son billet de train. Et elle m'a dit quand j'ai lu ton livre, j'ai senti que je n'étais pas toute seule.
احساسات و چیزی که نویسنده احساس میکنه اگر که از اون استفاده بکنه میتونه به قلب خواننده‌اش راه پیدا کنه.
Et cela me montre que les sentiments que l'écrivain a, si on arrive à bien les exprimer, peuvent rentrer jusqu'au cœur des lecteurs.
توی فارسی یه شعر هست.
Il y a une poésie en persan qui dit.
آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
Ce qui sort du cœur entre dans le cœur de l'autre. Et pour moi, c'est vraiment ce que je comprends de ce que Tomáš a dit.
On parlait tout à l'heure des souvenirs. Il y a quelque chose, Nassim, dans votre roman que j'ai trouvé passionnant également, c'est la façon dont vous convoquez ces souvenirs. C'est-à-dire qu'on n'a pas à proprement parler des allers-retours dans le passé qui seraient clairement identifiés. On a quelque chose d'extrêmement subtil, d'extrêmement puissant, qui est que les personnages sont en train de vivre une scène et d'un seul coup, un événement du passé est convoqué, mais c'était un petit peu comme si, en tout cas moi, à la lecture, c'est ce que j'imaginais, comme si le décor autour du personnage se transformait et elle revivait une autre scène et ça redevenait à nouveau le présent, ce qui fait que quand un des personnages raccroche le téléphone, un instant, on est perdu, on ne sait pas si on est dans le passé ou dans le présent. Comment est-ce que vous avez travaillé ces souvenirs pour qu'ils se mêlent de cette façon à la vie de vos personnages et qu'encore une fois, le lecteur se retrouve un instant, un seul instant déstabilisé à ne plus savoir à quelle époque il est. C'est dire à quel point nos souvenirs font partie de nos vies et qu'à tout moment, ils font partie de nous et peuvent se réactiver quand une scène nous en rappelle une autre.
خاطراتی که شخصیت‌ها توی این رمان در واقع تعریف می‌کنن
les souvenirs que racontent les personnages dans ce roman
چون از درون ذهنشون گذشته و دارن برای ما روایت می‌کنن
comme ils se sont passés dans leur ils sont passés par leur esprit et qu'ils sont en train de nous être racontés
در واقع راوی اینها روایت نمی‌کنه شخصیت داره برای ما تعریف می‌کنه
ce n'est pas le narrateur qui les raconte ce sont les personnages qui racontent ces souvenirs
این خاطره‌ها من حتی من که نوشتم مطمئن نیستم که همشون واقعا اتفاق افتاده باشن به این شکلی که راوی داره میگه.
C'est pour ça que même moi en tant qu'écrivain, je ne sais pas vraiment si ces souvenirs sont des choses qui sont vraiment produites ou pas.
انگار خاطره‌ها اتفاق افتادن و توی ذهن شخصیت تهنشین شدن تغییر کردن و بعد شخصیت داره برای ما تعریف میکنه.
C'est comme si ces souvenirs étaient produits, ces événements s'étaient produits, qu'ensuite ils s'étaient déposés au fond des personnages et que ensuite ils étaient de nouveau revenus, ressortis et qu'ils nous les racontent comme ça maintenant.
به طور مشخص اونجایی که سر برادر شبانه از رو پاش میخوره زمین و شبانه همیشه احساس میکنه اون بوده که توی مریضیش مقصر بوده.
Par exemple, à propos du frère de Chabanet qui est tombé, donc Chabanet se sent toujours responsable de ce qui est arrivé, de l'infirmité qui est arrivée à son frère.
در حالی که حتی منم مطمئن نیستم که این اتفاق واقعی باشه.
Et alors qu'en fait, je ne suis même pas sûre moi-même que c'est vraiment ça qui s'est passé.
برای گذر از اتفاقا و اینکه خواننده گیج نشه یه راهی پیدا کردم برای خودم که وقتی که یک خاطره تعریف می‌کنم دوباره برگردم به زمان حال یعنی یک خاطره از گذشته میرم و دوباره میام توی زمان حال برای اینکه خواننده مسیر زمان حال رو گم نکنه.
Pour que le lecteur ne se perde pas totalement, j'ai trouvé ce moyen de toujours à chaque fois que je parlais du passé de revenir au présent.
ولی این بازی بین زمانها و غلطیدن بین زمانهای مختلف یه چیزی که فکر می‌کنم تو سنت ادبیات فارسی وجود داره.
Mais ce jeu entre les temporalités et le fait de tourner d'un temps à un autre, je pense aussi que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la tradition littéraire persane.
خواننده شناور میشه، غلط میخوره بین رویدادها و زمانهای مختلف، درست مثل اون چیزی که تو ذهن خودمون اتفاق میفته.
Le lecteur se noie en fait dans les différents événements qui se produisent et qui sont entre ce qui s'est passé et ce qui est en train de se produire.
و من فکر میکنم که ما اینجوری فکر میکنیم، بنابراین وقتی که شخصیت داره فکرش رو برای ما تعریف میکنه احتمالاً همین مسیر رو برای فکر کردن انتخاب میکنه.
Et je pense que c'est de cette manière-là que nous pensons. Et donc, quand le personnage est en train de raconter les choses, il est aussi en train d'exprimer cette manière de penser.
Oui, j'ai trouvé ça vraiment très, très organique et très, très bien fait. C'est vraiment... c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Et si vous ne l'avez pas encore lu, la première page, ça commence avec un événement qui devient de plus en plus... obscur, et on se rend compte que c'est un rêve, mais c'est fait tellement subtilement que c'est pas le rêve, c'est pas exagéré. On comprend lentement que c'est un rêve, et c'est vraiment la logique des rêves, mais qui n'est pas qui est très naturelle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça, donc félicitations, et c'est inspirant aussi.
Merci beaucoup.
Quand
je l'ai écrit, vraiment, je ne pensais pas à sa traduction. Et je l'ai vraiment écrit d'une manière pour les Iraniens, et du coup, je suis vraiment très contente de voir que même en traduction, ça marche.
Je pense que c'est vraiment une question de... d'énergie, des vibrations, et donc comme dit le proverbe, avec si ça sort du cœur, c'est quelque chose qui est vraiment universellement compris, parce que c'est un langage qui dépasse la culture. Donc il s'agit plus de l'essence, de la nature, justement pas de la culture humaine, mais de la nature humaine. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse, enfin ça transcende les traductions.
Merci beaucoup, je suis très contente d'entendre ça.
On parle depuis tout à l'heure de la puissance de la littérature. Vous racontiez l'émotion d'être assise aujourd'hui avec Tomáš. Dans vos deux romans, la littérature est présente. Les livres, Tomáš, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Ludvík. Un livre... en particulier dans votre roman, mais vous racontez comment est-ce que la littérature aide à vivre en réalité.
Oui, il s'agit de solitude et de sortir justement de ce sentiment d'isolement qui est probablement un des sentiments les plus nocifs pour l'être humain. C'est sentir que on est seul avec une expérience et que donc on ne peut pas vraiment demander de l'aide parce que personne ne peut vraiment comprendre. Et donc, oui, ce problème va donc grandir parce qu'on est seul. Le silence alimente le problème. Et pour moi, ça sort aussi d'une expérience personnelle. C'est quand j'ai lu La chambre de Giovanni, je pense que ça s'appelle comme ça en français, oui. Donc Giovanni's Room de James Baldwin. C'était vraiment une révélation pour moi et ça m'a fait voir la littérature et la puissance de la littérature d'un œil complètement différent. Et donc j'ai vraiment voulu faire cadeau à Ludvík de la même expérience et en même temps rendre hommage à James Baldwin pour lui remercier et surtout ce qui m'avait frappé c'était cette temporalité du livre, parce que quand j'ai lu James Bold, enfin La Chambre de Giovanni, James Bold n'était plus vivant. Et de se dire que ces mots étaient tellement, tellement vivants et ils étaient en train de me parler et d'arriver droit dans mon cœur et de me changer, c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui m'a prouvé la puissance de la littérature. Et voilà, c'est peut-être là où on peut trouver une certaine appartenance. Parce que puisqu'on parle de maison, puisqu'on parle d'exil, puisqu'on parle de maison, je pense que pour certaines personnes, des personnes qui veulent quelque chose qui n'est pas donné naturellement dans la société dans laquelle ils vivent, on peut trouver des âmes sœurs, des âmes frères dans les livres, et on peut se rendre compte que justement on n'est pas seul et que, encore une fois, il y a cette universalité dans l'expérience humaine qui est très soulageante et très libératrice, parce que du coup on se dit ok, j'ai pas à porter ce problème tout seul sur mes épaules, il y a déjà des gens qui sont passés par là. Et ça, ça veut dire qu'on appartient à une famille, même si c'est des gens qui sont d'une autre culture, d'une autre race, d'une autre génération, on fait quand même partie du même clan, dans un certain sens. Et moi, j'ai une grande affiche dans mon bureau de James Bolden, et moi, je vois ça presque comme pas comme un altar, mais comme peut-être d'autres gens, des photos de leurs arrière-grands-parents. Ça veut dire de savoir, là, il y a des gens auxquels j'appartiens et qui sont dans ma lignée, dans un certain sens. Oui.
Nassim, Chabanais dit à un moment, je vous lis, « Je vis dans les nuages, je suis devenue mélancolique à cause de tous ces livres, je sais. » Et Chabanais, c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de films. À un moment, elle imagine que le rendez-vous avec l'homme qu'elle fréquente est annulé, et je vous lis. Il ne manquerait plus que notre sortie soit annulée, ou qu'il réalise que je ne suis pas amoureuse. Ou pire encore, on sort ensemble, on se dispute, il m'aboie dessus devant tout le monde, alors je le pousse dans un précipice et je me retrouve en prison pour le restant de mes jours en laissant ma Anne seule. Ou bien quand elle imagine, à un moment, la nuit tombe, et elle imagine les gens qui allument les premiers, les lumières, ce qu'ils sont en train de faire. On pourrait se dire, à la lecture du livre, qu'elle se plie davantage que Leila et Roja. À un moment, Roja dit, à propos de Chabanais, elle a de la chance, elles ont de la chance, toutes celles qui n'ont jamais rêvé de partir. Mais Chabanais, elle rêve beaucoup. Ce rêve, ce n'est pas celui de partir, mais cette liberté qu'elle cherche, elle est ailleurs. Et à travers ses livres, elle retrouve sans doute des gens qui partagent des émotions qu'elle vit, mais ses livres lui font dire aussi qu'on peut vivre des émotions fortes. Quand elle parle de Arsalan, qu'elle fréquente, elle dit « c'est un mec ordinaire, tu comprends, c'est terrible d'être ordinaire ». Chabanais, elle a un monde intérieur immense.
مهاجرت یه جرأت خیلی زیادی میخواد، یه توانایی خیلی زیادی میخواد.
L'immigration demande vraiment beaucoup de courage et beaucoup de capacité.
اینکه شما جرأت بکنیم که کنده بشین از چیزی که توش هستین.
Il faut que vous ayez le courage de vous arracher à quelque chose dans lequel vous êtes.
و به جای جدید بچسبین. واقعا چیزی که توی این رمان فقط از روجا برمی اومد.
Et que Et dans ce roman, il n'y a que Roja qui était capable de faire cela. Et Chabanais, je pense qu'elle est beaucoup plus soumise que ça, et elle ne peut pas. Donc, ça ne veut pas dire que je pense qu'elle est peureuse ou que je veuille la juger.
Elle veut quelque chose d'autre de la vie.
Elle veut avoir de la tranquillité, elle veut avoir une vie amoureuse. Et tout ça, ça pour elle, c'est suffisant.
Mais il y a aussi la question du modèle amoureux. Elle se pose beaucoup la question de est-ce qu'elle est amoureuse ou non d'Arsalan. Et je disais, le personnage qui est parti, le mari de Leïla, en réalité, ce départ, il est important pour toutes les trois. Chabanet raconte comment est-ce que elle aimerait qu'il soit davantage cet homme qu'elle fréquente comme Misag. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amoureux modèle.
باز هم برمیگردم به اینکه چیزی که آدم‌ها تو ذهنشون می‌سازن به مرور زمان تغییر می‌کنه.
Je reviens encore à cette idée que ce que les gens fabriquent dans leur tête change avec le temps.
من به عنوان نویسنده این کتاب نمیتونم قول بدم که میثاق همون چیزیه که کاراکترها تعریف می‌کنن. نمیتونم قول بدم که میثاق همون چیزیه که کاراکترها تعریف می‌کنن.
Et je ne peux pas vous assurer que Misar est la même est exactement cette chose que racontent les personnages.
شاید این گذر زمان و نبودنش اونجا تو ذهن شخصیت‌ها تغییر داده.
Peut-être que son absence, le fait qu'il n'est pas là, a modifié son personnage dans l'esprit des autres personnages.
و من فکر می‌کنم که خیلی آرام‌بخشه که تو ذهنت یه مدل داشته باشی از عشق و دنبالش بگردی.
Et moi je pense que c'est très apaisant d'avoir un modèle de l'amour dans sa tête et d'essayer de le trouver.
کلاً به نظر من عشق همینه. عشق پیدا کردن یک مدل رویایی توی بین یک عالم آدم دیگه.
Pour moi, l'amour, c'est ça. C'est essayer de trouver un modèle onirique qui viendrait d'un autre monde. Il faut prendre la décision. On prend la décision qu'on va voir uniquement les choses positives chez une autre personne. Et quand on devient amoureux, on se rend compte à ce moment-là que, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment cette personne. Mais cette expérience, donc de ne voir que les choses positives chez une personne, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement jouissif.
Du coup, moi, je vois vraiment les parallèles entre ça, entre l'amour et l'émigration, parce que dans les deux cas, on a un idéal et après, on se plonge dans l'inconnu et on doit faire face à la réalité de cette vie-là. Et parfois, enfin, dans tous les cas même, il y a toujours un moment où il y a une petite déception, peut-être.
Et c'est pour ça que les deux sont très dangereux.
Oui, oui. Et moi je me demande quelle est ta relation à toi envers l'émigration, vu que tu écris beaucoup dessus. Où est-ce que tu te trouves sur le spectrum, de Leïla jusqu'à Chabanet? Et est-ce que ça a évolué dans les dernières 10 ans?
من 10 سال پیش کاملا رجا بودم.
یا 10 ans moi j'étais رجا.
من قرار بود که به فرانسه مهاجرت کنم ولی ویزا نتونستم بگیرم. ویزا تحصیلی.
Il était prévu que je vienne en France mais je n'ai pas eu une visa.
بعد از اون ماجرا من ایران موندم و نویسندگی رو شروع کردم.
Et après ça, je suis restée en Iran et j'ai commencé à écrire. Et je ne peux pas m'imaginer ce qu'aurait été ma vie si j'avais vraiment émigré. Oui, parce qu'on choisit toujours une des deux voies et du coup l'autre voie reste inconnue.
حتی کسایی که مهاجرت میکنن و برمیگردن هم باز زندگیشون مثل قبل نمیشه.
Et même les gens qui ont émigré et qui ensuite reviennent, leur vie ne reprend pas leur cours d'avant.
ولی به هر حال مهاجرت همیشه سوال بزرگ منه. اینکه آیا من این کارو بعد انجام بدم به خاطر آسایش یا به خاطر امنیت به خاطر آزادی از همه چی مهمتر.
Et à chaque fois, moi, je me demande, est-ce que je devrais immigrer pour ces histoires de sécurité et puis surtout de liberté et de et d'apaisement.
ولی از یه طرف دیگه احساس می‌کنم شاید موندن من توی ایران به آزادی یه کمک کوچیکی بکنه.
Mais en même temps, je me dis par certains moments que le fait que je reste en Iran peut aider d'une certaine manière, une petite aide, apporter une petite aide à la liberté. Et je sens que la société est vraiment en train de changer et j'ai envie d'être, de faire partie de ce processus.
فکر میکنم هیچ وقت نتونم جواب این سوال رو پیدا بکنم که کدوم راه درسته ولی
j'ai peur que je ne trouverai jamais la réponse à savoir quelle est la voie la plus la meilleure.
میدونم که حکومت ایران دوست نداره که نویسنده های غیر همسو با خودش باشن و کار بکنن.
Mais je sais que le régime iranien n'aime pas que les écrivains qui ne sont pas dans la droite ligne du pouvoir restent en Iran et écrivent.
شاید موندن ما و کار کردن یه نوع مبارزه باشه.
Et peut-être que le fait que j'écrive et que je reste en Iran est une sorte de résistance.
Vous parlez de rester, partir. J'aimerais juste lire un court passage que je trouve très fort sur le moment où justement on est dans l'attente. C'est Roja qui attend son visa et je vous lis. Ces enfoirés m'ont fait monter sur une balançoire. Et chaque jour, il me pousse d'un bout du monde à l'autre. Je ne suis ni ici, ni là-bas. Je reste suspendue en l'air. 2 mois que je flotte comme ça. Le jour où j'ai remis mon dossier, je suis partie avec. Mais je ne suis arrivée nulle part. Je suis restée en l'air, en plein ciel. C'est infernal d'être suspendue comme ça. Je trouvais cette image extrêmement puissante. Je vois qu'il est malheureusement... déjà presque temps de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Nassim ou Thomas ? Ou bien je continue encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Si, là, il y en a une. Il y a un micro qui arrive juste là.
Je vais faire mon possible. Je suis avocate droits humains, donc pour moi, quand j'aborde la liberté, c'est d'un point de vue juridique, politique. En plus, je suis iranienne. Donc le combat pour la liberté, c'est souvent approché d'un point de vue, en tout cas activiste, militant. C'est chargé politiquement, c'est de la guerre, c'est de la violence, c'est des gens qui meurent, qui sont en prison. Du coup, je me demande... Vous écrivez sur des pays qui sont, ce sont vos pays, des situations qui sont encore émotionnellement lourdes et politiques, enfin qui sont du coup encore en train de se passer. Enfin, l'Iran est encore en pleine révolution, la Pologne. Peut-être que c'est le régime soviétique est fini, mais c'est pas forcément encore facile d'être un homme homosexuel en Pologne. Donc la liberté n'est jamais totalement acquise. C'est encore un combat. Est-ce que du coup, pour vous, la littérature, le fait d'en parler à travers des vécus, des histoires personnelles? C'est aussi une forme, Nassim l'a mentionné, c'est une résistance, mais c'est votre manière à vous d'avoir un espace qui n'est pas forcément dans cet espace de violence qui est chargé politiquement, qui est compliqué à gérer émotionnellement, qui est traumatisant, mais de pouvoir contribuer à définir cette liberté, de pouvoir contribuer à l'expliquer et aussi le faire d'une manière apaisée, thérapeutique pour vous. Et aussi pour les gens qui sont de ces pays-là ou les gens qui vous lisent et qui ont aussi besoin de sentir la liberté, parce qu'en final, en France aussi, on est encore en train de se battre pour notre liberté. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et merci.
On a un proverbe drôle en Iran. Ils disent que le deuil de tout le monde est en fait un mariage. Quand vous voyez que la douleur que vous ressentez est partagée par beaucoup de gens, ça peut être très apaisant pour vous.
بخشی از نوشتن از رنج ها به نظر من به خاطر همینه. نویسنده از رنج ها می نویسن که بتونن نشون بدن که اینها هم بوده و گذشته.
Et à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles les écrivains écrivent, pour montrer qu'il y avait ces douleurs, mais qu'elles sont passées
et que
nous sommes restés en vie.
بعد از این اتفاقات اخیر که افتاده بود واقعا یه جوری احساس می‌کردم که تحمل کردنش برام نشدنیه.
Et avec les derniers événements qui se sont produits, moi, il y a un moment où j'ai vraiment pensé que supporter cela, ce n'était pas possible. Mais c'est passé. Et maintenant, je me suis rapprochée un petit peu du côté de l'espoir.
Oui, enfin, pour moi, j'ai... Parce que moi aussi, comme tu sais, j'ai étudié le droit, donc j'ai aussi approché la liberté et les droits humains, droits de l'homme et de la femme, par la voie juridique. Et je pense que c'est important pour chacun et chacune de trouver un moyen qui lui convient pour exprimer ce qui se passe, pour améliorer le monde. Et je pense qu'il y a des... Moi, j'ai connu des gens lors de mes études qui étaient des activistes, et c'était dans leur cœur, c'est dans leur être, ils vivent ça, et c'est pas facile, mais si c'est ta nature, tu peux le faire. Et je pense que c'est comme ça avec toutes les professions ou les... Oui, des choses qui t'appellent. Et pour moi, c'était l'écriture. Ça veut dire que c'est vraiment pas facile, mais c'était... ma manière de laisser un document derrière, peut-être de créer une réflexion, même si elle est très subjective, enfin, parce qu'elle est subjective. Et c'est peut-être lié à ce que j'ai dit au début, c'est que quand il y a un silence, c'est le silence, c'est le non-dit, ce qui n'est pas dit, n'existe pas dans un certain sens. Et le seul fait de montrer que ça existe, c'est très puissant. C'est comme... Enfin, ça marche sur beaucoup de niveaux. C'est comme des gens qui prennent des photos de la guerre. C'est pas des gens qui... C'est des gens qui sont juste là et au lieu de se battre sur un côté ou sur l'autre, ils prennent juste la photo. Mais ça aussi, ça, c'est un acte qui contribue à quelque chose. Et... Ou dans un autre sens, peut-être comme le mouvement MeToo, le simple fait de juste dire voilà ce qui est arrivé, ça peut donner du pouvoir et faire qu'on n'est plus victime, on n'est plus sujet ou soumis, mais on devient ceux qui racontent l'histoire et pas ceux à qui l'histoire est racontée.
Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'interprétation et merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous.